Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Travail à la Carte qui explore les différentes façons de travailler. Je suis Svetlana Baranov et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manuela Laure-Olé. Bonjour Manuela.
Bonjour Svetlana.
Alors, je t'ai invitée car je voulais parler un peu de ton parcours professionnel parce que tu n'as jamais eu peur du changement et tu as eu plusieurs expériences professionnelles très différentes, loin de la carrière linéaire qu'on nous présente un peu comme le Saint Graal. Et pour commencer, je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous dire ton âge, s'il te plaît ?
Oui, je vais avoir 64 ans le mois prochain.
Alors, c'est un peu indiscret, mais c'est pour mieux comprendre en fait un peu ton parcours professionnel. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ton parcours ?
Oui, on pourrait dire, pour synthétiser, que mon parcours, il est divisé en trois grandes périodes. J'ai commencé mon parcours dans la publicité. À l'époque, c'était hyper in d'être dans la pub. Ça permettait d'être créatif, ça permettait d'être libre. Enfin, on avait beaucoup d'interprétations et de croyances. Donc, j'ai fait une bonne partie de la pub, comme directrice de pub, responsable market, responsable com. Ensuite, je suis partie dans des grosses entreprises à des postes de direction de communication, d'entreprises leaders, soit américaines, soit européennes. Et puis, je suis arrivée, troisième période, dans le monde de l'ingénierie pédagogique. Et j'ai commencé par enseigner mon métier à des étudiants d'école de commerce. Et j'ai poursuivi ensuite en dirigeant des services de formation, en concevant de la formation et en l'exploitant.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ?
Alors aujourd'hui, depuis 2 ans, j'allie mes compétences de coaching et de psychothérapeute pour accompagner des cadres d'entreprise essentiellement. Alors, faut savoir que mon parcours, il a été en France et à l'étranger, donc en trois grandes périodes. Mais entre-temps, j'ai passé un doctorat de communication spécialisé dans la communication en coprésence et médias dans le cadre des entreprises, donc management et com, avec les nouveaux outils, donc que le numérique. Et j'ai aussi fait une formation de 4 ans en psychothérapie. Et pour terminer, comme j'avais beaucoup coaché, beaucoup dirigé, je me suis dit, il me faudrait un certificat de coaching pour crédibiliser le tout. Et donc voilà, aujourd'hui, j'utilise les trois grands pôles de mes compétences comme psycho et coaching pour accompagner les cadres d'entreprise et les managers.
Et comment on trouve, le temps et l'énergie en fait pour se former parce que tu avais d'autres emplois en parallèle en fait.
Oui, j'ai beaucoup. Alors déjà, comment on trouve le temps ? Je pense que le nerf de la guerre, en dehors de la motivation, c'est l'organisation. Il faut être extrêmement bien organisé pour arriver à avoir le poste que l'on veut en entreprise, à côté de ça, à monter des entreprises et concevoir un enfant et l'élever. Mais c'est peut-être le regard sur mon travail qui fait que ça s'est passé comme ça. Le travail, pour la plupart des gens, c'est bien entendu, c'est avoir des revenus. Mais ce qu'ils ne savent pas, les uns et les autres, que ce soit les entreprises ou l'individu, c'est que le travail, ça participe à la construction sociale de soi. Ça participe à l'estime de soi. Ça participe à la reconnaissance que l'on soit un acteur dans une société donnée. Et donc, c'est plus qu'être utile, le travail. Le travail, c'est ça, c'est de l'accomplissement. Alors, je pense que c'est ce qui a été mon moteur pour moi, c'est d'avoir compris assez tôt, c'est beaucoup dû à mon éducation, je pense, assez tôt que le travail, c'était pas une servitude et qu'on pouvait transformer les contraintes en plaisir ou en moteur pour aller encore plus loin.
Et comment tu faisais alors pour t'organiser, par exemple, pour ton diplôme de psycho en parallèle de ton job ? C'est quand même pas évident.
Non, c'est pas évident. En fait, j'ai passé. Moi, c'est simple. Je faisais la plus petite journée que j'ai eue dans ma vie de travail, elle faisait 12 heures. Mais j'ai une capacité à travailler, qui doit venir de mon énergie vitale. C'est-à-dire que ça me suffisait pas, moi, de travailler toute la journée. Ce que j'avais envie, c'était d'apprendre en plus. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait deux choses importantes dans le management, qu'on n'apprenait pas à l'école et que mes supérieurs m'ont jamais appris. C'était la psychologie de l'humain et la manière de le conduire à un endroit sans le diriger. Et donc, pour y arriver, j'étais obligée d'aller chercher ailleurs de la nourriture intellectuelle. Et donc, c'était simple. Hein, c'était le soir, une fois que j'avais couché mon gamin, je pouvais travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, sans difficulté. Tous les ans, je me suis imposée une formation. Alors, j'ai fait plein de formations en leadership training for managers ou autres. Et on peut dire que la moitié de mon week-end passait à ça aussi, passait à travailler des articles de recherche, à échanger avec des gens qui avaient le même centre d'intérêt. Et la plupart de mes vacances ou de mes week-ends longs, j'allais en séminaire ou en stage. Et c'est comme ça que j'ai pu mener mon doctorat, mes 4 ans de psycho.
Et quelle était ta motivation alors ?
Alors, ma motivation, je crois que c'est ce que je vais dire, ça semble fou, mais je suis passionnée par le fait d'être active. C'est-à-dire, pour moi, le travail, c'est pas une contrainte. J'ai jamais vécu ça comme une contrainte. C'était du plaisir. À la limite, le travail, pour moi, c'est un sport. C'est-à-dire, je prends autant de plaisir à travailler que aller faire de la marche nordique ou aller faire une randonnée en montagne. Pour moi, c'est le même niveau de plaisir.
Et tu n'as jamais connu d'environnement de travail qui t'avait un peu détourné de cette passion ou qui t'avait un peu dégoûté du travail ?
Alors, j'ai connu des personnes au sein de, notamment deux fois, une fois j'étais directrice d'école de commerce et une autre où j'ai été directrice de l'ingénierie et de la pédagogie. J'ai connu des personnes qui étaient ce que j'appellerais moi des nuisibles à la santé mentale. C'est-à-dire capable de plomber leur collaborateur au point qu'ils n'aient plus envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, au point de les rendre malheureux. D'ailleurs, entre parenthèses, mon mémoire de psycho, c'est sur l'épuisement professionnel, le syndrome de l'épuisement professionnel que je l'aimais. Parce que justement, moi, ma volonté, c'était de dire, et d'ailleurs une fois, je l'ai carrément dit à un directeur de cabinet, c'est pas vous qui allez m'empêcher de jouir de mon travail. Et c'est pas vous non plus qui avez altéré la qualité de mon travail. Je me rappelle d'avoir dit ça. Parce que j'ai jamais voulu que les autres, que quiconque m'empêche d'aller là où je voulais aller. Donc, bien sûr, j'ai rencontré des personnes, des dirigeants aussi intéressants. Hein. La plupart des PDG que j'ai rencontrés, j'avais une excellente entente avec eux. Mais si j'avais un message à faire passer, c'est qu'il faut les traiter comme s'ils étaient nos égaux. Et leur parler en toute authenticité. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu souvent des bons postes. Je me rappelle une fois, il y en a un qui m'a dit « Vous avez l'air d'avoir un fort tempérament. » Et je lui ai répondu « C'est pas ce que vous voulez pour diriger votre entreprise. » Vous cherchez quoi ? Vous cherchez ce... Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se laisser perturber par les autres parce que même si le travail, au sens de l'anthropologie, hein, sociologie du terme, le travail, c'est une réalisation de soi, c'est une construction identitaire et c'est une socialisation qu'on appelle, nous, secondaire dans le monde de la communication. Et en fait, faut pas se laisser détourner de cela. Donc, quand quelque chose nous convient pas, moi, ma première étape, c'était de le dire. Et j'ai eu dit des choses, des fois, des grands patrons qui étaient durs à entendre pour eux, parce que j'avais jamais peur, soit qu'ils me licencient, soit de me lever et de partir. Ce que j'ai déjà fait, hein, me lever et partir. Donc non, je crois qu'il faut se dire que notre valeur, elle est en nous et c'est pas l'employeur qui nous le donne et c'est pas nos collègues qui nous le donnent. Ça motive, c'est ce qui me motive. C'est d'être libre.
Et ça, le fait de ne jamais avoir peur, c'était quelque chose d'inné chez toi ou tu l'as travaillé ?
En fait, je crois que j'avais des dispositions déjà étant enfant d'en avoir rien à faire de ce qu'on pensait de moi. Ça, je pense que ça m'a aidée. Ensuite, bien sûr, j'ai eu peur, comme certaines personnes, surtout quand il y a eu des crises économiques, de pas avoir de revenus pour vivre. C'était une peur que j'avais. Mais en fait, je l'ai combattue en me disant, au fond, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et un jour, je l'ai mis en pratique. Je me suis levée d'un comité de direction et j'ai dit, je préfère aller vendre des pommes que continuer à travailler avec vous. Et je suis partie. Parce que dans ma tête, à ce moment-là, c'était au fond, je peux faire n'importe quoi. Si j'ai besoin d'aller travailler que pour me nourrir, je trouverai toujours quelque chose pour me nourrir. Ça veut dire, bien entendu, de pas tout mettre dans le statut social. Et c'est peut-être parce que j'avais pas peur de ça, que je savais que je finirais toujours par m'en sortir, que j'ai osé partir, j'ai osé refuser des postes aussi.
Justement, tu parles de statut social. Quelle était la réaction de ta famille, tes amis, tes nombreux changements de carrière?
Alors, moi, j'avais de la chance d'un côté et la malchance d'un autre. J'avais une mère qui avait peur pour moi et qui disait que c'était pas normal, qu'au travail, il fallait savoir se taire, accepter accepter la culture de l'entreprise, accepter que le dirigeant nous parle d'une certaine manière, etc. Et d'un autre côté, j'avais un père qui, lui, a été pratiquement toute sa vie employeur et qui formait un trio avec mon parrain et mon oncle. Et ces trois hommes-là, c'est eux qui m'ont aidée mentalement. Parce que quand je partais, et je partais souvent, quand je partais, ils me disaient « t'étais pas bien où t'étais ?» Eh ben t'as bien fait de partir. Et je crois que cette force, je l'ai aussi de ces trois hommes qui sont encore vivants et qui m'aident encore quand j'ai un doute. Qui, eux, étaient partis du principe que, bon, ils avaient immigré en France. Ils avaient appris la langue, ils étaient partis de zéro. Ils se sont construits, ils ont construit des entreprises et ils n'ont pas eu peur de faire des choses, des fois, des petites besognes entre deux emplois pour nourrir leur famille parce qu'ils avaient confiance en eux. Et je crois qu'ils me l'ont transmis. Mais je pense, moi, tout au fond de moi, et quand je coach les personnes en reconversion ou les personnes qui doutent, je pense que si on n'attend rien des autres et qu'on considère que le travail, c'est pas une servitude, mais c'est un moyen de prendre du plaisir, un moyen de s'affirmer, un moyen de bâtir sans attendre la reconnaissance, alors ça se passe bien. On peut aller où on veut. On peut dire ce que l'on veut, on peut décider de sa vie.
C'est beau hein, ce que tu dis, hein. Je pense que c'est très inspirant. Hein.
Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est ce que je suis et c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que je voulais. C'est vrai que je suis contente de ce côté-là. Tout mon parcours professionnel, je l'ai aimé. Mais peut-être aussi que j'ai quelque chose en moi qui fait que même quand j'aime pas une tâche, ou que j'aime pas manager telle personne, ou que j'ai du mal à accepter qu'un directeur traite mal ses salariés, alors je me dispute avec, etc. Mais je me dis toujours que personne n'a le droit de soumettre l'autre à partir du moment où l'autre donne ce pour quoi il est payé. Et moi, ce que je reproche aux entreprises, et je pense que c'est là où elles font une erreur, c'est que lorsqu'elles recrutent, d'abord, elles savent pas recruter, je le dis, hein, et n'importe qui peut venir me dire le contraire, je crois pas, parce que je les ai vus à l'œuvre. Ils savent pas recruter, parce que, par exemple, en France, on recrute à partir du CV, à partir du passé de l'individu. Mais on recrute pas l'individu en lui demandant ce qu'il veut devenir lui. On lui demande qu'est-ce que vous pouvez apporter à mon entreprise. Alors déjà, c'est stupide comme question. Parce que quand on est en entretien, comment peut-on savoir quel est le projet de la boîte et comment on va s'inscrire dedans? Donc, c'est déjà une question stupide. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que vous voulez devenir, quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous le travail? Quelles sont les tâches que vous voulez prendre? Est-ce que vous avez des projets que vous aimeriez réaliser au sein de l'entreprise? Et je pense que ça vient déjà de là. Alors, en fait, ce que je pense vraiment, c'est que l'entreprise, si elle tenait compte de l'identité de l'individu qu'elle recrute, si elle avait compris que si elle veut réussir son projet collectif, il faut qu'elle intègre à l'intérieur de son projet collectif le projet de l'individu, si elle comprend déjà ces deux éléments, je pense qu'elle aura des candidats qui seront capables de partager ces valeurs et qui seront capables aussi de les faire progresser, de participer au rayonnement et au développement de l'entreprise.
Et dans toutes tes expériences, quelle était déjà la plus longue et quelle est celle qui t'a le plus marquée ou que voilà, la meilleure pour toi?
Alors, je les ai toutes aimées. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la plus longue, c'est lorsque pendant une bonne dizaine d'années, j'étais consultante, j'avais monté mon cabinet et en même temps, je concevais des masters, enfin des programmes de formation pour des masters et que j'intervenais soit dans les entreprises, soit auprès des étudiants pour enseigner notamment la stratégie de communication et le management. Ça a été la plus longue parce que... Mais pourquoi elle a été la plus longue? C'est ça qui est intéressant. C'est parce que j'étais pas au même endroit toute la journée. C'est-à-dire, sur une semaine, j'étais à 3 ou 4 endroits différents. Donc, c'était le même type de travail, mais pas pour les mêmes projets et pas auprès des mêmes individus. Alors après, moi, je dirais que la pire plutôt que j'ai eue, c'est à la pire, c'est dans la fonction publique. Et, ah non, ça a été la pire. Diriger un service dans la fonction publique quand on vient du monde du privé, c'est lunaire. Oui, c'est la pire.
Et qu'est-ce qui te pousse à changer à chaque fois? Il y a un déclic particulier ou ça vient avec le temps? Qu'est-ce qui se passe?
Le déclic, c'est quand tu crois, parce que là, je réfléchis en même temps que je te réponds. Le déclic, je pense, c'est que lorsque je me disais, bah, j'ai plus rien à faire. Ce que j'ai fait là, c'est bon. La répétition, c'est pas quelque chose que j'aime. Déjà, il me faut toujours un autre projet à côté. C'est pour ça que le fait d'être consultante et en même temps formatrice, ça m'allait bien parce que j'avais toujours un client qui m'amenait un nouveau projet. Donc c'est ce qui me faisait résister. Oui, je pars quand. Alors si une fois je suis partie, pas pour cette raison-là, je suis partie parce que le dirigeant a changé et que les valeurs qu'il avait, je pouvais pas m'inscrire dedans. Il avait une typologie de management qui pour moi était obsolète, qui n'avait plus lieu d'être dans le monde dans lequel on est. Oui, là je suis partie.
Quand tu as fini d'apprendre, peut-être aussi?
Bah, en fait, j'ai la chance d'apprendre vite. C'est une chance depuis toujours, depuis l'enfance. Donc, une fois que j'apprends, j'ai envie de mettre en application. Et quand j'ai mis en application sur des registres différents, là, je commence à me dire, bon, bah, c'est comme si mon cerveau s'ennuyait. Et à ce moment-là, oui, je pars.
Je me reconnais pas mal là-dedans et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se reconnaissent là-dedans.
Oui.
Et est-ce que tu n'as jamais eu cette envie de construire, d'autant plus qu'au fur et à mesure, tu as vu tes amis qui construisaient, comme on dit, une carrière qui certainement montait en hiérarchie, en salaire aussi.
Oui.
Ça t'a jamais fait envie, même si toi tu n'y arrivais pas, mais de se dire je sais pas, moi aussi je veux m'inscrire dans ce développement là quoi?
Non, parce que d'abord j'ai eu la chance d'avoir des postes qui étaient toujours des postes de direction, donc j'avais quand même une certaine marge de manœuvre, sinon j'aurais pas pu le faire, je pense. Et puis ensuite parce que j'ai toujours bien gagné ma vie aussi. Et j'ai jamais envié mes amis, ni mes sœurs, personne, parce que je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler comme je l'entendais. Et puis vous savez, je pense, là je m'adresse à tous ceux qui travaillent, je crois aussi que j'ai choisi mes patrons. Parce que quand j'allais en recrutement, la plupart du temps, j'étais recrutée d'abord par comme toujours, le directeur des RH, le DRH, et ensuite, j'ai rencontré très vite le DG ou le PDG parce que c'était à des postes de direction. S'il ne me plaisait pas, ça n'avait pas les mêmes valeurs, si la personne, je la trouvais pas assez créative, pas assez innovante, trop dans le paternalisme, etc., je lui disais non, je refusais le poste. En revanche, quand je tombais sur quelqu'un qui me taquinait, qui cherchait à me pousser à bout pendant le recrutement, mais que je trouvais intelligent, où je trouvais qu'il cherchait ce qu'il avait envie d'entendre, mais qu'il cherchait aussi autre chose qu'une personne atypique, alors là, oui, effectivement, j'y allais. Je crois que si on est soi-même au travail et si on a peur de personne, eh ben ça fonctionne parce que l'autre en face, il le sent. Moi, j'ai eu pas mal de mes PDG qui m'ont dit certaines choses de moi, qui me disaient qu'au début, soit je leur faisais peur, soit ils avaient peur que je mène trop, que j'allais trop vite. Alors oui, tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Ça, j'entendais souvent. Mais très souvent, j'ai aussi entendu qu'ils ne savaient pas comment je m'y prenais, mais que ça marchait, donc c'était essentiel. Je crois que c'est ça. Si on sent que ça marche, c'est essentiel, peu importe comment on fonctionne. On peut pas non plus demander aux individus d'être tous pareils. Je crois qu'une entreprise, elle peut pas progresser si elle a pas des gens atypiques, si elle a pas des personnes. Je pense qu'un grand patron, il aime les gens qui n'ont pas peur. Et voire même, ils apprécient qu'on leur dise des choses que personne d'autre auront le droit de leur dire. Donc, ça marche, ça colle aussi pour ça, je crois.
C'est intéressant, donc, de choisir son travail à double sens, quoi. C'est pas que l'employeur qui nous choisit.
Oui, et ça, c'est l'intérêt. Lorsque j'entraîne quelqu'un à la reconversion ou à obtenir un poste, qui m'arrive assez souvent en coaching, je l'entraîne pas à aller dans le sens de celui qui va le recruter, mais je l'entraîne à être offreur de service. Je dis toujours aux personnes, quand tu vas dans une boîte, c'est pas parce que c'est elle qui recrute que c'est elle qui a le monopole de la direction à prendre. Toi aussi, tu es offreur de service, tu es offreur de tes compétences, de ton temps, de ton enthousiasme, de tout ce qui fait de ce que tu es. Et en fait, si on se positionne en tant qu'offreur de service, si c'est un dirigeant qui nous recrute, ça va l'intéresser parce qu'il verra qu'il n'a pas apporté quelqu'un, que l'autre, il sait très bien ce dont il est capable et ce qu'il va pouvoir proposer. Et on est toujours offreur de service. C'est pas parce qu'on est candidat qu'on doit être soumis à ce que l'autre attend de nous. Bon, après, mis à part, ça va être l'anal et quand vous tombez sur des DRH. Il y a des DRH, je me demande ce qu'ils font là. Hein. Ils ne connaissent rien à la psychologie de l'humain. Ils ne savent pas ce que représente le travail pour l'humain. Et c'est intéressant parce que, juste une parenthèse, j'avais lu en 2017 une étude en Angleterre qu'ils avaient interrogé 6000 cadres. Donc c'est assez récent, en 2017, c'est pas si vieux que ça. Et ils leur avaient posé la question, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et en deuxième position, ils avaient mis le travail. Parce que sans le travail, on peut pas se socialiser. Sans le travail, on a l'impression de ne pas être reconnu utile dans la société dans laquelle on est. Donc, si on a affaire à un patron qui a compris ce que veut dire le travail pour l'être humain et qu'on se positionne en offreur de service, il y a fort à parier qu'on va faire de belles choses ensemble. Mais les DRH, un, ils sont pas formés à la psychologie humaine, faut le savoir. Deux, ils ne savent pas ce que le travail représente dans le sens anthropologique du terme et sociologique du terme. Donc, il pourrait être remplaçable par n'importe qui. Je suis en train de dire qu'à la limite, je mettrais un logiciel pour recruter quelqu'un, il ferait pas plus d'erreur que 80% des DRH. J'en ai rencontré beaucoup au sein de ma thèse doctorale des DRH.
Et dans tout ça, est-ce que tes contraintes personnelles, donc une famille, un crédit, un enfant, est-ce que ça a orienté d'une manière ou d'une autre tes choix ou ça a toujours été dicté parce que toi, tu voulais à un instant T?
Ça, c'est une excellente question. Il y a eu un moment où ça a orienté mon choix. Lorsque mon enfant est né, je dirigeais la com d'une boîte américaine et donc je travaillais pour l'Europe et donc je voyageais beaucoup, même enceinte. Et à un moment donné, bon, l'enfant il va à la crèche, etc. Et le jour où mon fils, suis allée le chercher et qu'il m'a pas regardé, qu'il a tourné la tête, l'air de dire, toi, je te connais plus, quoi, je t'en veux. Là, je me suis dit, pour un certain temps, il va falloir que je change de cap. Alors là, effectivement, j'ai abandonné le poste de directeur de commun international. Et c'est ce qui m'a entraîné un peu à aller, à m'orienter vers le consulting et la formation pour être plus libre, pour gérer mieux mon temps. Oui. C'est la seule fois de ma vie où une personne m'a forcé à faire un choix, un petit bébé.
Tu regrettes pas?
Non. Je regrette pas parce que si j'avais pas fait ça, je me serais pas éclatée dans le consulting. Je serais pas allée faire de la formation professionnelle ou former des étudiants en fin d'études. J'aurais pas eu les émotions que j'ai vécues avec mes étudiants.
Et le risque financier, c'est quelque chose qui a pu guider tes choix aussi ou pas?
Non, si le risque financier avait été prioritaire, j'aurais pas perdu autant d'argent que j'en ai perdu. Parce que quand j'ai monté mon cabinet, j'ai monté aussi une entreprise à côté. Là, j'ai mis absolument tout. J'ai tout perdu. En fait, j'ai tout perdu deux fois en montant des entreprises à côté de mon travail. Et si le risque financier avait été mon objectif, bah aujourd'hui, j'aurais plusieurs biens immobiliers, j'aurais de gros moyens. Mais non, en ça, j'ai suivi la philosophie de mon parrain, qui a perdu 1 milliard dans sa vie, mais pour faire ce qu'il voulait. Voilà. Donc, je me suis dit que si lui était capable de le faire, moi, j'étais capable aussi. Non, parce qu'en fait, j'y crois vraiment que c'est pas le salaire qui nous apporte de la joie. Si je dois aller tous les jours au travail et avoir un gros salaire, comme on m'a eu proposé des fois, tripler mon salaire, je me rappelle une fois. J'ai refusé. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de refuser, parce que quand je vois cette personne à la télé, je me dis toujours que j'ai bien fait de pas bosser avec elle. Si j'avais fait ça, oui, j'aurais gagné de l'argent. Mais j'aurais perdu, je pense que j'aurais perdu un peu de ma confiance, un peu d'estime de moi-même, mais je pense que ça m'aurait été beaucoup plus préjudiciable que de vivre en dents de scie avec un coup des hauts salaires, un coup des plus petits salaires.
C'est très important, hein, ce que tu dis, l'impact d'être à la mauvaise place que ça peut avoir, en fait, à long terme sur nous et sur notre vie.
Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette quand je vois des individus, comme je le disais, j'ai passé mon mémoire de psycho sur le syndrome d'épuisement au travail. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la représentation du travail sur le plan psychologique et la souffrance des gens au travail. Et ce que je regrette le plus, moi, c'est que la plupart des gens sont malheureux parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place au travail. Par exemple, ils se sont forcés parce qu'ils avaient fait telles études, par exemple, à occuper tel poste, ou alors ils se sont forcés à rester à ce poste parce que c'était sécurisant, par peur de tenter autre chose. Et ça les rend malheureux, et s'il y a de plus en plus de burn-out, il y a aussi une raison à cela. C'est que l'individu, la plupart du temps, il n'est pas à sa place, donc il tombe malade.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Et quels étaient les autres facteurs alors de l'épuisement professionnel?
Le facteur d'épuisement professionnel, il y en a beaucoup, hein. Il y en a un très important, mais qui est de l'ordre de la psychologie. C'est-à-dire, c'est intrinsèque à la personne. La plupart des personnes, on va dire, qui vivent le syndrome d'épuisement professionnel, ce sont des personnes, déjà, ça va être paradoxal, hein, ce que je vais dire. Mais pourtant, c'est ce qu'on a découvert. Ce sont des personnes qui sont trop impliquées dans le travail et surtout qui ont besoin de tant de reconnaissance et qui prêtent beaucoup attention au regard que les collègues, que la direction porte sur eux. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'ils sont pas à leur place. C'est-à-dire, ils ont été recrutés à un moment donné, comme tout le monde, ils avaient besoin de travailler. Ils sont allés un entretien, ils ont été recrutés. Et puis, parce qu'ils ont été recrutés, ils ont pris le poste. Par peur, à la fois par peur de pas trouver un autre poste et à la fois en se disant que s'ils avaient été recrutés, c'est qu'au fond, ils avaient une valeur. Et ça, c'est deux pièges. Parce qu'ils sont pas forcément recrutés par leur, pour leur valeur. Ils sont pas recrutés forcément à la place ou là où ils seraient le mieux, là où ils pourraient, on va dire, s'épanouir. Donc, y a un peu de ça. Il y a aussi autre chose, c'est que l'individu qui vit non pas pour le, ce que lui apporte le travail à lui-même, mais pour ce qu'il apporte à l'entreprise, lui aussi est susceptible de tomber malade. Parce que apporter à l'autre, ça ne veut pas dire s'oublier. Il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a 500, j'ai écrit 500 pages, non 600 et quelques, sur le syndrome. Ouais, c'est très intéressant.
Et je voulais aussi aborder avec toi un sujet transverse, parce qu'on en avait déjà parlé toutes les deux. C'est la liberté. C'est une valeur chez toi, la liberté ?
La première. C'est la première. Je crois que c'est le moteur et c'est ce qui m'aime à la limite. À toutes tes questions, j'aurais pu répondre, je l'ai fait pour être libre.
Et c'est quoi être libre alors ?
Je crois qu'être libre, c'est ne pas se laisser influencer par les, ce que j'appelle moi les têtes bien pensantes. Celles qui pensent qu'elles ont raison sous prétexte qu'elles le pensent. Je pense qu'être libre, c'est se remettre tout le temps en question soi-même et être très vigilant sur son environnement. C'est bien se demander, mais où est-ce que l'autre veut m'emmener? Et pourquoi j'irai au fond? Qu'est-ce qui me pousse à y aller? Être libre, je crois que c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, sans tenir compte des préjugés et en se disant, ok, là je prends un risque, je vais le payer certainement cher, mais je suis prête à le payer. Au nom de la liberté de choisir.
Non, c'est c'est très juste, je pense. Et surtout qu'on a tendance à opposer liberté et travail ou liberté et contrainte. Donc, on est aujourd'hui dans un monde où, en fait, on se dit bah, pour être libre, il faut ne pas travailler. En fait, ça serait la seule solution. Et toi, au final, dans tes expériences, tu prouves bien qu'on peut concilier les deux, quoi, d'avoir aussi des contraintes familiales, d'avoir un travail et pour autant être libre.
Oui, moi, je pense qu'on peut être libre. Pourquoi ? Parce que c'est dans sa tête. Il faut quand même bien accepter que quand je suis au milieu d'autres, d'un groupe humain, que ce soit une organisation de travail ou même celui que je crée moi-même, hein, puisque moi j'ai créé des entreprises, quand je suis au sein d'un groupe humain, j'ai forcé qu'il y ait des contraintes. Dès qu'un individu est face à un autre individu, il va vivre des contraintes. C'est la manière dont on les vit qui fait la différence. Quand je dis je peux être libre malgré les contraintes, par exemple, qu'un PDG va me donner, mais pourquoi je reste libre? Parce que, un, d'une part, je lui dis ce que je pense, je lui dis comment je veux prendre les choses, et parfois je refuse une tâche et j'explique pourquoi. Mais par contre, j'en propose une qui va apporter plus de valeur ajoutée. Elle est là, ma liberté. Et l'autre l'accepte, cette liberté, parce que je lui apporte mieux que ce au quoi il aurait pensé. La liberté, c'est dans la tête. Mais on peut pas dire, je rentre dans une organisation de travail, et je peux pas être libre. On peut être libre de partout. D'ailleurs, je vais dire, en tant que consultant, quand on monte ce cabinet, c'est d'accord, on est indépendant. On pourrait penser que comme c'est nous qui créons la boîte, on est le patron, on est indépendant. C'est faux. On a autant de contraintes, si ce n'est plus que dans un cadre imposé. Donc la liberté, c'est pas le cadre, c'est ce qu'on a dans la tête. On peut travailler où on veut. Et être libre. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, oui, moi, j'en ai marre, je vais être libre, je vais créer ma boîte, je vais être indépendant. Alors, la première question que je lui pose, c'est ça, c'est, mais est-ce que tu crois, c'est quoi être libre pour toi? Parce que si libre pour toi, ça veut dire, je vais aller au boulot quand je veux, comme c'est moi qui dirige, je vais faire ce que je veux. Eh ben, non, tu vas pas la trouver parce que tes clients, ils vont exiger certaines choses. Tes collaborateurs, il va falloir que tu leur donnes du temps, de l'écoute, de la motivation, enfin de les aider, de les soutenir. Parce que bon, pour moi, un bon manager, c'est pas un directeur. Un bon manager, c'est un guide et un support. D'ailleurs, entre parenthèses, une fois, on m'a dégagé à cause de ça, un recrutement. Parce que j'ai osé dire, c'était pour un poste de direction, j'ai osé dire que non, moi, je dirigeais pas. J'étais un guide et un support. Ça n'avait pas plu au DRH. Donc en fait, la liberté, elle est bien dans la tête. Donc, faut pas croire qu'on va être libre parce qu'on va prendre un boulot indépendant, que je vais être libre parce que je vais pas travailler. D'abord, ça veut rien dire. Parce que tout le monde travaille. Mais c'est le mot travail qui va pas. Dans le mot travail, dans le latin, c'est souffrance, le travail. Le travail, c'est une servitude. Et ça l'était, hein, ça l'a toujours été. Sauf qu'aujourd'hui, on n'ose pas employer le mot. Mais on est asservi à quelque chose, asservi à être là quand on nous demande, asservi à faire des tâches de telle manière, asservi à mener les actions de telle manière. Si je me prends comme ça, c'est sûr, je suis pas libre. Mais si à l'intérieur de ce cadre, j'essaye de faire bouger les choses et de faire les choses à ma manière, là, je deviens libre. Mais je peux le faire aussi bien en tant qu'indépendante qu'en statut salarié. J'ai fait les deux. Donc, je peux dire qu'il y a autant de servitude dans l'un que dans l'autre si je veux prendre le travail comme une servitude.
Et tu en as déjà donné plein de conseils, mais pour terminer le podcast, si tu avais un conseil à donner pour s'épanouir au travail aux auditeurs de cet épisode.
Je crois que la première chose que je leur dirais, c'est lorsque vous rencontrez, allez à un entretien pour du travail, n'essayez pas de vous ajuster à votre interlocuteur. Tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on a appris à toute ma génération. C'est une erreur. Dites pourquoi vous êtes là, ce que vous attendez vous aussi de l'entreprise. Ne vous contentez pas de répondre aux questions. À un moment donné, s'il faut couper la parole, quitte à être légèrement impoli, c'est de dire « je suis là parce que moi, voilà ce que j'ai à proposer ». Donc, je dirais, la première question, c'est vous demander « qu'est-ce que vous… » Vous proposez à l'autre. Vous lui proposez pas uniquement sur le poste, c'est marqué, je sais pas, ingénieur d'affaires de ramener du pognon, directeur de com de mener sa campagne. Qu'est-ce que vous lui proposez? Comment vous voyez le travail? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que vous y mettez à l'intérieur? Faut être, en fait, je crois que pour réussir, faut se connaître soi-même. C'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Qu'est-ce que je refuserai? Et est-ce que je suis prêt à refuser un boulot qui, en apparence, a un bon statut social et un bon salaire? Est-ce que je suis prêt à le refuser pour aller faire un petit boulot en attendant de trouver celui qui me convient? C'est ça la vraie question. C'est donc des questions envers soi-même.
Et c'est une très belle conclusion et, comme je disais, dans cet épisode, tu as donné aussi plein d'autres conseils que je trouve très précieux. Et qui, j'espère, vont inspirer aussi les gens pour franchir le cap et suivre un peu leurs envies et trouver ce qui leur correspond. Tu disais que le pire, c'est de ne pas trouver sa place. Enfin, je suis assez d'accord avec ça.
C'est le plus important.
Écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles, à le liker, vous abonner au podcast Le Travail à la Carte et à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.